Bon, je vous remercie de votre accueil. Je suis heureux de découvrir à cette occasion cet endroit incroyable, chargé d'histoire, comme l'est notre maison d'Auguste Comte. Je remercie Michel aussi, qui s'occupe de faire connaître les études et la pensée d'Auguste Comte à un public extérieur, si je puis dire. Je vais vous dire quelques mots aujourd'hui d'Auguste Comte et la médecine, et la philosophie de la médecine, étant entendu qu'effectivement, Comte aurait aimé s'adresser aux prolétaires. Il a essayé, il a enseigné auprès des prolétaires, il a eu un certain nombre de disciples prolétaires, il s'est adressé aux femmes, puisqu'il a écrit un catéchisme de la médecine positiviste à destination de la femme. Mais pratiquement, les disciples qu'il a eus, ça a été des médecins. C'était essentiellement des médecins. Dans les membres, alors on verra grâce aux travaux de Diane Dosso bientôt combien de médecins sur le nombre exact de membres de la société. Mais je dirais qu'on ne doit pas être loin de la moitié dans certaines époques. Et effectivement, vous savez qu'il y a des positivistes qu'on appelle orthodoxes, c'est-à-dire ceux qui suivent Comte jusqu'à la religion, etc. Et d'autres qui sont dissidents, c'est-à-dire qui n'acceptent que le premier Comte. Des deux côtés, ce sont des médecins. Par exemple, du côté des dissidents, qui sont les plus célèbres lettrés, le célèbre auteur du dictionnaire de la langue française et du dictionnaire de la médecine et de toute une série de travaux sur Hippocrate, mais aussi Charles Robin, qui est un très grand médecin de l'époque, mais aussi Clémenceau, qui traduit d'ailleurs le livre de Mille sur Comte et qui a une formation de médecin. D'autres qui sont moins connus, comme Daly, Montaigre, etc. Donc il y a effectivement toute une série de dissidents médecins, et effectivement, par exemple, la Société de biologie, qui est fondée au XIXe siècle et qui va influencer Claude Bernard, est sous influence, si je puis dire, positiviste, mais aussi de l'autre côté, du côté des orthodoxes, ceux qui reprennent effectivement la totalité de l'œuvre de Comte, il y a toute une série de médecins, par exemple, Segond, bibliothécaire à la faculté de médecine, Semery, un psychiatre très célèbre, un historien de la psychiatrie, Ritti, des familles entières de médecins aussi, comme la famille Robinet, avec notamment Robinet, premier biographe de Comte, marié selon le rite positiviste, la famille Dubuisson, et toute une série, par exemple, à une époque, Sainte-Anne, l'asile psychiatrique de Sainte-Anne, était largement dirigé par des positivistes orthodoxes, Audifrin aussi. Alors après, ça a été des francs-maçons, ou c'est peut-être encore toujours des francs-maçons, mais l'influence positiviste chez les médecins est tout à fait importante. D'ailleurs, un des principaux disciples de Comte, qui s'appelle Audifrin, publiera un appel aux médecins en 1862, donc après la mort de Comte, que Comte avait prévu d'écrire. Il voulait écrire un appel aux médecins, et il était totalement encouragé, fasciné ou intéressé par le fait que sa doctrine connaissait, dit-il, un début de succès collectif auprès des médecins. Alors, pourquoi ce succès particulier à l'égard des médecins? Je pense qu'il y a plusieurs raisons, et donc je vais essayer d'en parler un petit peu. D'abord, il y a effectivement la place de la médecine dans la vie même de Comte, qui est évidemment tout à fait centrale. Bon, Auguste Comte, on va le voir, se voit lui-même à certains égards comme un médecin. Il y a effectivement les textes qu'il écrit sur la biologie, puisqu'il est effectivement, au début de son œuvre, un fervent défenseur de la science biologique, qui apparaît autour de 1800. Puis ensuite des textes beaucoup moins connus et pourtant très intéressants sur ce qu'il appelle la médecine, le digne praticien, c'est-à-dire le médecin non pas biologiste, le médecin généraliste, qu'on appellerait aujourd'hui le médecin généraliste, qui lui est plus synthétique et qui est d'une certaine manière le précurseur au fond du sacerdoce, comme il dit, positiviste. C'est-à-dire ce sont ces médecins qui sont les plus aptes à porter effectivement la pensée positiviste. Et donc de ce point de vue-là, d'ailleurs, Comte, c'est assez curieux à savoir, plusieurs de ses disciples qui étaient polytechniciens, il leur dit stop, arrêtez, enfin faites des études de médecine. Et donc il envoie ses disciples faire des études de médecine parce que selon lui, c'est un moyen de devenir synthétique, c'est-à-dire d'avoir une vision qu'on appellerait aujourd'hui globale, totale de l'homme. C'est un point intéressant. Et dernier point, si j'en ai le temps, je parlerai effectivement de ce que Comte appelle des utopies positives, c'est-à-dire des utopies biomédicales, qu'on appellerait aujourd'hui biomédicales, qui dessinent selon lui ce que pourrait être l'avenir humain, et donc c'est là pour le sous-titre de mon livre, Vache carnivore, vierge mère et mort-vivant, on verra un petit peu ce qu'il en est, c'est-à-dire qu'il décrit comme étant notre avenir, des choses qui sont effectivement dévalides. Le fait que les vaches doivent manger de la viande, le fait que les femmes vont enfanter d'une manière, vont procréer toutes seules, d'une manière beaucoup plus rationnelle, etc. Chose qui, enfin, qu'il faut dissocier la sexualité de la reproduction, chose qui effectivement sont des questions plus qu'actuelles, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc voilà, j'essaierai de voir deux ou trois points de ce côté-là. Alors, première chose, là, la vie d'Auguste Comte. Auguste Comte, sa vie a une partie liée, si je puis dire, avec la médecine, puisque, vous le savez, Comte était fou. En tout cas, Comte a eu de graves crises de démence au cours de sa vie, notamment en 1826, où il y a une crise très grave. Il est interné pendant un moment à Charenton, dans la maison du grand psychiatre Esquirol. Il reste plusieurs mois et il sort NG, comme il est écrit sur les registres, c'est-à-dire non guéri. Et donc, il est très gravement malade et il écrit une lettre assez étonnante qu'on peut voir à la maison d'Auguste Comte, à Blainville, qui est un grand biologiste de l'époque, où il dit, il est parti se réfugier dans une hôtellerie autour de Paris, je me suis traité moi-même, tout ça souligné, écrit dans majuscules, etc. Moi-même, vu que j'étais absolument isolé, c'était cette heureuse et inflexible nécessité que j'attribue ma guérison. Vous jugerez ma capacité médicale, et si vous avez le temps d'assister à la démonstration, je suis obligé, dit-il, d'ici d'être et même de paraître un véritable médecin malgré lui. Et il commente, mon sobriquet à l'école polytechnique était Sganarel, mes camarades auraient-ils alors été prophètes comme j'étais hier médecin. Prenez toujours ceci comme un symptôme et me l'administrez comme calmant. En ce sens, il n'y a pas de rire, merci. Bon, une lettre totalement délirante. Et le lendemain, il écrit une autre lettre à un de ses amis d'Eichstein, qu'il signe Auguste Comte, DM. DM, c'est-à-dire docteur medicus, docteur en médecine. Au cours de son délire, il se voit effectivement comme un médecin, et il explique effectivement qu'il va se soigner lui-même. Alors, par ailleurs, Comte, toute sa vie, a des crises de, on dirait aujourd'hui qu'il est maniaco-dépressif, sans doute, et il a des crises, effectivement, de crises qu'il appelle des crises nerveuses, mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que, au lieu de les cacher, Auguste Comte les met en avant. C'est-à-dire que dans ses grandes œuvres, le cours de philosophie, le système, il fait l'aveu de cette folie. Philosophe fou, c'est courant, je dirais, il y en a pas mal. Des philosophes fous qui disent « je suis fou » et c'est la preuve de la vérité de mon système, c'est plus rare. Et Auguste Comte le fait, puisque, selon lui, vous savez sans doute qu'il décrit l'histoire de l'humanité comme l'histoire de la loi des trois états, c'est-à-dire que l'humanité était d'abord théologique, puis métaphysique, puis positive. Or, il explique que lors de ses crises de démence, il a parcouru la loi des trois états en sens inverse, dit-il, puis direct. Il est redevenu métaphysicien, puis théologien, et puis ensuite il a réussi à revenir de théologien à métaphysicien à positif. Et donc, selon lui, son délire est une preuve de la vérité de sa philosophie. Alors, de même aussi, il explique que le fait qu'il arrive à écrire sur la folie, c'est quelque chose qui est la preuve qu'il va bien, notamment après sa crise de folie, en 1828, son premier écrit, c'est un livre qui s'appelle « Examen du traité de Brousset sur l'irritation », qui s'appelle « De l'irritation et de la folie ». Et donc, selon Comte, si il peut écrire sur la folie, c'est qu'il n'est plus fou. Ça se discute, hein. On n'est pas obligé de le croire, si je puis dire. Mais c'est un point tout à fait intéressant, c'est-à-dire que la folie est réellement au cœur de sa pensée et il n'essaie pas de la cacher, au contraire. Alors, il y a des tas de choses qu'il essaie de cacher dans sa vie, etc. Mais ça, ça fait partie de l'impératif qui est le sien de vivre au grand jour, comme il le dit. Et c'est même une preuve de la vérité de sa théorie de la loi des trois états. Alors, même chose aussi à la fin de sa vie, lors de la dernière maladie de Comte, il estime que les médecins ne servent à rien, et donc il y a beaucoup d'ici de médecins qui sont gênés, ils voient qu'il est malade, il y a sans doute un cancer, etc. Mais lui dit non, tout va très bien, laissez-moi faire, donnez-moi vos conseils si vous voulez, je ferai ce que je veux, et effectivement il fait ce qu'il veut, mais la veille de sa mort, il écrit une lettre à un de ses amis pour dire tout va bien, ça va, je suis complètement guéri, bon, il meurt le lendemain. C'était sans doute pas un médecin extrêmement doué. Mais en tout cas, il y a l'idée que c'est quelque chose de tout à fait important pour lui, parce que la médecine a toujours affaire à des cas particuliers, donc le meilleur médecin, c'est le médecin de soi-même, c'est-à-dire qu'on se connaît mieux soi-même que quiconque pourra nous connaître. Et donc il y a l'idée qu'au fond, les médecins traditionnels ne suffisent pas. Alors si vous visitez la maison d'Auguste Comte, vous verrez aussi qu'il y a une balance dans la salle à manger, il pesait l'ensemble de ce qu'il mangeait, etc. Et donc il y avait effectivement l'idée d'un régime qu'il devait faire, etc. Et donc souvent Auguste Comte s'est vu lui-même comme une sorte de médecin. Il donnait d'ailleurs par lettre, des espèces de conseils à ses élèves faisant médecine, qui disaient, bon, est-ce que je prends quoi comme cours? Est-ce que je prends plutôt le cours de pathologie ou le cours d'anatomie? Est-ce que je prends, etc. Et donc, Auguste Comte disait, bah, faites ceci, faites cela, etc. Et il proposait, effectivement, tout ce qu'il appelle une théorie de la maladie. Donc, je pense que de ce point de vue-là, la présence de la médecine est tout à fait marquante chez Comte, voire aussi ce qu'il dit sur la psychiatrie. On a, à travers lui, un témoignage direct de ce que pouvait être un traitement chez Esquirol, qui était le grand psychiatre de l'époque. Auguste Comte estime que le traitement moral qu'auraient dû faire Pinel et Esquirol, c'est-à-dire parler aux malades, essayer de le réinsérer, etc. Et c'est quelque chose qui n'était pas fait. Les agents subalternes, dit-il, sont mal formés, les psychiatres sont mal formés. Ça, c'est le premier point. Alors, le deuxième point intéressant, c'est qu'évidemment, c'est ce qui est le plus connu, je dirais, c'est Auguste Comte, penseur de la biologie. Pour lui, effectivement, la biologie, c'est la science nouvelle, donc le terme de biologie apparaît en 1802, enfin chez Lamarck notamment, en Allemagne chez Treviranus, etc. Et la médecine serait l'art appliqué correspondant à la science biologique, comme l'art vétérinaire, l'agriculture ou l'élevage sont des arts appliqués. De ce point de vue-là, la médecine aurait eu une grande importance dans le développement de la biologie. Il dit notamment dans la 40e leçon du cours, qui est consacrée à la biologie, « Il n'y a pas de science dont la marche ait dû être aussi liée au développement de l'art correspondant que l'histoire ne le montre pour la biologie comparée à l'art médical. » On est vraiment dans la période où la biologie apparaît comme nouvelle science et Comte essaie de penser l'indépendance de la biologie. Et de ce point de vue-là, il rejoint des gens comme Lamarck, comme Bichat, etc., avec qui il essaie de démontrer que la biologie ne peut pas être réduite notamment à la chimie, notamment à la physique, donc aux sciences antécédentes dans la classification. Donc c'est une critique aussi du matérialisme biologique, si on veut. Mais selon lui, désormais, il faut que la biologie se sépare de la médecine. La science biologique, dit-il, est parvenue aujourd'hui à une époque de pleine maturité. Elle doit désormais devenir une science autonome, sans adhérence directe, dit-il, à l'art médical ou à une autre application. Il faut arriver à faire la biologie une science vraiment théorique, c'est-à-dire une science qui permet de donner, dit-il, compte, une définition générale de la vie. Il faut essayer de trouver la définition générale de la vie. Bon, la définition qu'il donne, c'est l'harmonie entre un organisme approprié et un milieu convenable. La vie, c'est ça, c'est deux pôles, hein, c'est le vivant et son milieu. Et avec l'idée qu'il y a, il est d'ailleurs assez moderne, qu'il y a une rétroaction du vivant sur le milieu. Mais la biologie devrait aujourd'hui se séparer, dit-il, de la médecine. Ce serait aussi absurde de confier l'étude de la biologie au médecin, dit-il, que de confier au navigateur la culture de l'astronomie sous prétexte que l'astronomie a pris son essor à l'occasion de cette navigation. C'est-à-dire que c'est aussi absurde de laisser les médecins faire la biologie, c'est pas les navigateurs qui appliquent l'astronomie qui vont faire progresser l'astronomie. Le médecin, de ce point de vue-là, est un personnage relativement moins progressif, si je puis dire, que le biologiste. Il y a une boutade à l'époque, il aurait sans doute repris, de Cuvier qui disait « Il faudrait faire entrer des médecins à l'Académie des sciences pour qu'ils s'éduquent en étant avec des savants. » Ils ne sont pas considérés comme des vrais savants. D'où le fait qu'ils aient une académie de médecine à part, qui n'est pas une académie des sciences, etc. Et de ce point de vue-là, il faut effectivement travailler, il faut essayer de réfléchir sur la biologie comme science effectivement théorique, hein, science véritablement théorique. Et donc, il faut développer un corps de savants qui seront les biologistes. Alors, c'est la même chose pour une autre science et une autre pratique, c'est-à-dire la sociologie et la politique. C'est-à-dire que la sociologie aussi doit devenir une véritable science. La politique n'est qu'une application de la sociologie. Donc, c'est pas les politiques qui vont décider la sociologie, ce sont des vrais savants, des savants d'un type nouveau, puisque c'est une science, vous le savez, qui est fondée par Auguste Comte. Mais effectivement, il doit être possible, là aussi, à partir de la sociologie, d'arriver à des conséquences politiques. Il faut d'abord savoir comment fonctionne la société pour déterminer ce que l'on peut faire et comment on peut traiter ou soigner aussi, d'une certaine manière, la société qui est assez malade. Alors, de ce point de vue-là, la biologie est une science extrêmement éminente, c'est une science qu'il qualifie de science tournante, si je puis dire, dans la mesure où elle introduit ce qu'il appelle la méthode synthétique, c'est-à-dire la considération du tout avant la considération des parties. Méthode synthétique versus méthode analytique. Ça, c'est la première partie de son œuvre, c'est le cours. Et il y a ici une inflexion très réelle par la suite, c'est-à-dire qu'Auguste Comte va ensuite critiquer les biologistes dans la mesure où ils ont toute une série de tendances matérialistes, selon lui. Alors, et je crois que ça va de pair avec le fait que la plupart de ses disciples dissidents sont des biologistes et ceux qui le suivent sont des médecins. Donc, il a tendance à se dire, bon, bah, les biologistes, effectivement, n'acceptent pas l'ensemble de ma doctrine et il va opposer ceux qu'il appelle les purs biologistes à ceux qu'il appelle les dignes praticiens. Les purs biologistes, ce sont ceux qui veulent faire la biologie pure, par exemple, Littré. Par exemple Charles Robin, etc. Et les dignes praticiens, ce sont ceux qui annoncent ce qu'il appelle le sacerdoce sociocratique, Alors, de ce point de vue-là, pourquoi les médecins sont-ils matérialistes? La définition du matérialisme d'Auguste Comte, c'est assez, une définition assez particulière, puisque ce n'est pas une thèse sur l'être, etc. C'est l'idée que le matérialisme, c'est la réduction, dit-il, du supérieur à l'inférieur. C'est la réduction du plus noble au plus grossier. Donc, on est matérialiste lorsque, effectivement, on réduit une explication moins digne, d'une certaine manière, c'est-à-dire primitive, si je puis dire. Par exemple, premier type de matérialisme biologique, ce sont les biologistes, qui veulent, dit-il, réduire le moral au physique, comme ces médecins qui n'étudient en nous que l'animal et non l'homme, et qui, de ce fait, dégénèrent en vétérinaire, ou même pire. C'est-à-dire, si on pense que l'homme peut être soigné juste par son corps, on n'a pas compris. L'homme, c'est aussi et surtout un cerveau, d'une certaine manière, une pensée. Alors, il dit, c'est nos prétendus médecins ne constituent réellement que des vétérinaires, mais plus mal élevés que ceux qui ne le sont maintenant, du moins en France, et dès lors aussi peu capables, ordinairement, de guérir les animaux que les hommes. Ces biologistes matérialistes n'arrivent pas à concevoir que l'homme est un tout. C'est une totalité, pensée et corps. Il y a l'idée qu'effectivement, l'homme est un corps. Ce n'est pas vrai. Ça marche pour les animaux, à la rigueur. Ça ne marche pas pour l'homme. Deuxième type de matérialisme, deuxième type de réduction, c'est la réduction de ceux qui veulent effectivement réduire la biologie aux sciences antérieures dans la classification, c'est-à-dire la physique ou la chimie. C'est ceux qui pensent que le vivant, c'est du physique ou du chimique. Alors, évidemment, la cible est tout à fait claire, ce sont les matérialistes du XVIIIe siècle, ce sont les matérialistes des Lumières, c'est D'Holbach, Lametti, etc., qui méconnaissent effectivement l'originalité du vivant. Ils pensent que le vivant, c'est simplement des échanges chimiques, des processus chimiques, etc. Et cela, c'est une aberration, dit Comte. La preuve en étant que les plus grands biologistes, Bichat, qui donne son nom au dernier mois du calendrier positiviste, donc il y a un personnage extrêmement important, Bichat a bien montré qu'il y a un danger à combattre dans cette réduction du biologique au vivant. Et troisième type de matérialisme aussi, c'est le matérialisme qu'il appelle sociologique ou organiciste, c'est le matérialisme inverse, si je puis dire, ou dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est dans la classification des sciences, ce sont les biologistes qui veulent s'annexer la sociologie, c'est-à-dire ceux qui pensent que la société, c'est un organisme vivant comme les autres. Et donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, on appelle, depuis le 19e, un organicisme, c'est-à-dire l'idée qu'on pourrait expliquer la société exactement sur un modèle biologique. Or, ce matérialisme-là, c'est aussi absurde de réduire la sociologie à la biologie. Ce serait absurde d'expliquer tout en sociologie, dit-il notamment, par des influences purement secondaires de climat ou de race, par exemple. Et donc, on vous avait parlé d'anticolonialisme récemment, Auguste Comte est un des rarissimes penseurs scientifiques de l'époque qui ne soit pas raciste, parce que pour lui, la race, le climat, ce ne sont pas des déterminants. L'homme, c'est d'abord la pensée. C'est pas un corps, c'est pas des gènes qui évidemment n'existent pas, mais c'est pas un héritage, c'est pas quelque chose d'organique. Et donc, il y a une critique ici de la réduction de la sociologie à la biologie. De ce point de vue-là, dit-il, il y a une espèce de risque matérialiste qui est présent chez bon nombre de biologistes. Soit on voit pas que l'homme est un tout, et donc on réduit l'âme au corps, soit on réduit la biologie à la physique et la chimie, soit on réduit la sociologie à la biologie. Bon, vous savez qu'il y a une classification des sciences, vous avez peut-être vu ça, j'imagine, mathématiques, astronomie, physique, chimie, biologie, sociologie. Et donc, si on réduit, si on ne voit pas qu'à chaque science apparaît un nouveau domaine de recherche, et si on le réduit, on est matérialiste. Alors, donc ça, ce sont ces biologistes qu'il va critiquer. En revanche, c'est dans le système de politique positive, donc dans la deuxième grande œuvre de Comte, les quatre gros volumes du système, qui sont selon lui son œuvre principale, c'est dans ces quatre volumes qu'il va effectivement développer une sorte d'éloge de ceux qu'il appelle les dignes praticiens qui ne tombent pas dans cette erreur. Et Auguste Comte va, de ce point de vue-là, développer dans le système et aussi dans les lettres à la fin de sa vie, ce qu'il appelle une théorie de la maladie, une véritable philosophie de la médecine, qu'il développe dans toute une série de lettres adressées à ses disciples, par exemple Audifrin, mais aussi bien d'autres disciples médecins. Alors, il donne des conseils, je disais, bon, évitez les dissections trop mécaniques à ses étudiants, lisez de la poésie pour éviter le dessèchement matérialiste, épousez éventuellement une jeune fille du Midi, puisqu'il y en a un qui fait ses études de médecine à Marseille, il lui conseille d'épouser une jeune fille du Midi, de préférence catholique, donc avec des sentiments qui ne soient pas matérialistes, etc. faute de positivistes. La positiviste aurait été mieux, mais on en manquait un petit peu sur la région, donc il prenait plutôt une jeune fille catholique. Lisez la poésie italienne, hein, lisez Dante, lisez Pétrarque, etc.
Contre le protestantisme.
Mieux vaut le catholique que le protestant, ça c'est clair. Hein. Donc il y a toute une série de conseils de cet ordre. Néanmoins, dit-il, si on ne devient pas, si on ne fait pas de la biologie, qu'on reste un digne praticien, on va échapper à ce matérialisme. La profession médicale généraliste, qu'on appellerait aujourd'hui généraliste, les médecins, les dignes praticiens, les médecins concrets, si je puis dire, sont, eux, par nature, synthétiques, pour différentes raisons. D'abord, parce qu'ils considèrent que l'homme est un tout, est une totalité indécomposable, avec notamment la notion importante de sympathie, de synergie. Donc, il y a l'idée que le corps souffre en même temps. On ne peut pas séparer une partie du corps. Si on a telle action d'un côté, ça a des conséquences de l'autre. Le corps, ce n'est pas un assemblage d'organes, c'est une totalité organique. Et ça, les vrais médecins, les dignes praticiens le savent. Alors, c'est évidemment très, très curieux, puisque, au contraire, à l'époque, la notion de sympathie est en train de disparaître de la médecine scientifique. Mais Auguste Comte y fait toujours référence, parce que la sympathie, ça permet de comprendre que le corps humain est une totalité organique, et il cite ici, notamment l'école de Montpellier, les vitalistes de l'école de Montpellier, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel ces dignes praticiens sont toujours synthétiques, c'est effectivement parce qu'ils ont compris qu'il y a une intime connexion entre l'âme et le corps, c'est-à-dire, pour Auguste Comte, entre l'âme et le cerveau, d'une certaine manière. Et donc, de ce point de vue-là, ils ont compris que, notamment, que la plupart des maladies mentales sont des maladies liées à des troubles sociaux, politiques, etc., et ont des répercussions sur le corps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer l'âme et le corps. Le bon psychiatre, c'est celui qui considère l'interaction entre l'âme et le cerveau. Alors, on verra que de ce point de vue-là, Auguste Comte est un des premiers à développer ce qu'il appelle une philosophie du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau est un organe extrêmement central pour lui, parce que c'est l'interface, en gros, entre l'homme et la société. Donc il y a vraiment l'idée, alors c'est une idée aussi très contemporaine, hein, le cerveau social, hein, il y a un bouquin d'un célèbre neurobiologiste qui l'appelle Gazzaniga, mais effectivement, pour Comte, le cerveau, c'est ce qui est à l'interface. Hein. C'est un organe très particulier qui met en rapport l'homme et la société. Eux, ils ont compris ça, les bons psychiatres notamment ont compris cela. Et troisième point, les médecins, les dignes praticiens, sont synthétiques car ils comprennent, dit-il, l'irrationalité nécessaire des conceptions relatives à l'homme individuel. L'homme n'est jamais seul et les maladies ont pour la plupart une origine sociale. L'homme isolé, c'est une abstraction à la fois en politique mais aussi en médecine. Bien des maladies sont liées à des phénomènes sociaux, par exemple, idée qui commence à être quand même un peu datée, mais bon, par exemple, les grandes commotions politiques ou sociales entraînent des épidémies. Hein, la révolution de 1830 serait à l'origine du choléra de 1832, etc. Et donc, il y a l'idée qu'il y a lorsqu'il y a de trop fortes commotions dans la société, il y a aussi des maladies endémiques. Alors, il y a ce qu'il appelle, lui, la maladie occidentale, qui est la maladie consistant à refuser la continuité, disons, c'est le refus de la tradition, l'insurrection des vivants contre les morts. On commence aujourd'hui beaucoup à citer à nouveau cette phrase d'Auguste Comte, les vivants sont gouvernés par les morts, et c'est effectivement une des phrases les plus fortes, hein, et qui a les plus grandes conséquences dans la pensée française, notamment fin 19e, mais aussi aujourd'hui. Hein. Zemmour, Houellebecq et Gaspard Proust récemment ont cité cette phrase, ce qui est quand même très étonnant, parce que d'où ça sort. Enfin bon, comment se fait-il qu'Auguste Comte ressorte pour ça? C'est qu'effectivement cette phrase est assez significative. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de ce que Comte appelle sa théorie de la maladie, mais son idée, c'est qu'effectivement, les maladies sont essentiellement localisées dans le cerveau, en particulier dans l'homme de nos sociétés, des sociétés européennes contemporaines, et ce cerveau est effectivement à la fois le lieu de la pensée. Bon, il est un supporteur de la phrénologie jusqu'à une période très, très tardive, c'est-à-dire qu'il pense que phrénologie, c'est l'idée que la pensée est localisée dans le cerveau, que ce cerveau est composé de zones particulières, que certaines de ces zones sont plus ou moins développées, et qu'on peut le voir en palpant le crâne. C'est la bosse des maths, si vous voulez, en gros. Évidemment, on a tendance un peu à ricaner autour, mais c'est vrai que, par exemple, des neuroscientifiques comme Changeux, Nakache, etc., ont tendance à dire, oui, l'idée de base, elle n'est pas fausse. Elle n'est pas fausse, alors bon. Il n'y a pas de preuves, c'est compliqué, mais alors, ce qui est intéressant dans l'obsession, je dirais même, d'Auguste Comte pour le cerveau, c'est que c'est effectivement pour lui un moyen de montrer que la pensée est liée au cerveau, Et c'est même un moyen, alors c'est ce qui est assez frappant et ce qui est très original, je dirais, chez Comte, c'est qu'en général, quand on dit ça, ça veut dire la pensée se réduit au cerveau. La pensée, c'est rien d'autre que le cerveau. Alors il passe les dernières années de sa vie à faire sans arrêt des tableaux du cerveau ou de l'âme. Tableaux du cerveau ou de l'âme. Ça veut dire que ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que l'âme, c'est le cerveau, mais le cerveau, c'est aussi l'âme. Et le cerveau, par exemple, il est collectif, il est quasiment immatériel, il est immortel. C'est-à-dire que tant qu'il y a des cerveaux qui vivent, il y aura toujours, les cerveaux antérieurs vivent en nous. C'est ça, cette idée assez curieuse d'ailleurs, parce que il y a vraiment l'idée que tant que quelqu'un pense à Aristote, Aristote est vivant. Tant que vous pensez à votre ancêtre, il est là. Alors, d'où le culte des grands hommes, d'où le calendrier, d'où la religion, etc., avec cette idée qu'on peut, il y a une immortalité laïque, une immortalité matérielle de cerveau à cerveau. Ce qui est le plus fascinant, et j'en parle ici, puisque j'imagine que Flammarion, etc., sont des gens qui vous disent quelque chose. La question que se pose Auguste Comte, c'est qu'est-ce qui va se passer lorsque le dernier cerveau va mourir? C'est-à-dire qu'il envisage bien que l'humanité va pas, bon, c'est un scientifique, par ailleurs. Donc l'humanité, c'est une espèce animale comme les autres, on peut imaginer qu'elle disparaisse. Que faire du dernier cerveau qui aura en lui tout l'héritage de tous les cerveaux de l'histoire de l'humanité? Alors la solution est assez élégante, quoique un peu particulière, c'est en gros on télécharge ça à une planète. Le dernier cerveau va essayer de télécharger, on appelle ça downloader aujourd'hui, hein, la mémoire de toute l'humanité à une autre planète. Bon, c'est une solution très poétique, hein, qui n'est pas très rationnelle, mais on voit vraiment qu'il y a cette tentation, enfin cette idée que le cerveau c'est pas un organe parmi d'autres, c'est vraiment un organe qui a une fonction extrêmement importante. Alors il y a toute une série d'auteurs au début du XXe siècle, comme les Vogt par exemple, qui ont développé toute une théorie du cerveau, qui disent Der Mensch wird, l'homme devient toujours plus un animal cerveau, un animal cérébral, et effectivement c'est cela, hein. Il y a vraiment l'idée que le cerveau est quelque chose de tout à fait essentiel. Donc je vous passe parce qu'il fait effectivement une classification assez complexe des maladies, des rapports entre médecine et morale, etc. Alors donc, c'est les lignes praticiens, effectivement, selon lui, c'est eux qui vont réaliser le positivisme. Ce sont les précurseurs du sacerdoce positiviste. Alors, il y a un passage ici que je vous cite quand même, qui est assez curieux, puisque il explique effectivement dans une lettre à son disciple Liffrin, médecin, que au fond, le médecin va jouer un rôle central dans la République, dans la nouvelle organisation qu'il appelle de ses vœux positive, parce que le médecin de campagne déjà exerce le rôle qui convient, c'est-à-dire qui est à la fois, je cite un passage de cette lettre, l'attitude à promouvoir, c'est celle du digne médecin, surtout rural, placé entre le curé catholique et le magistère sceptique, qu'il doit savoir tenir en subalterne, mais paternellement, en utilisant leurs influences respectives, d'après une conduite aussi sympathique que synthétique, comme conseiller naturel du maire. Et alors, c'est une idée qui n'est pas absurde. C'était souvent ce qui s'est passé dans la politique des débuts de la Troisième République. Il y a d'un côté celui qu'il appelle le magistère sceptique, l'instituteur républicain, socialiste, laïque, etc. De l'autre côté, le curé rétrograde, qui n'accepte pas l'héritage de la Révolution, qui est hostile à l'éducation laïque, etc. Et puis, le médecin positiviste, qui devrait être le conseiller naturel du maire, donc le maire c'est l'homme d'action, et la pensée c'est le médecin qui devrait lui donner, parce que le médecin a compris à la fois qu'il faut récupérer l'héritage de la Révolution, la fin de la royauté, la séparation des pouvoirs, etc., mais en même temps, qui estime qu'il faut conserver un certain ordre. C'est Auguste Comte, vous savez, écrit un appel aux conservateurs, et donc c'est pas du tout, surtout à la fin de sa vie, un auteur révolutionnaire. Mais il pense que le médecin, c'est celui qui, effectivement, peut avoir cette influence modératrice, au fond, dans les campagnes, entre le magistère sceptique et le curé rétrograde comme conseiller du maire. Alors, c'est un petit peu excessif, mais souvent on constate, alors dans le personnel politique, notamment de la Troisième République, que c'est souvent ça. Il y a un grand nombre, très grand nombre de médecins dans les assemblées des débuts de la Troisième République, qui sont effectivement en général plutôt républicains, mais aussi qui sont en même temps plutôt conservateurs, et effectivement qui vont faire une espèce d'équilibre. Et donc selon Comte, c'est effectivement cela, et il pense que finalement le positivisme pourrait bien être effectivement la doctrine officielle de la République, parce que effectivement il arrivera à modérer la République, éviter l'extrémisme, etc. Et donc de ce point de vue-là, il y a effectivement l'idée que les médecins peuvent avoir un rôle important à jouer dans l'organisation sociale qu'ils promeuvent. Alors le dernier point, ce sont effectivement les différentes utopies positives. Alors ce qui est assez curieux, c'est qu'effectivement Auguste Comte, au lieu de critiquer les utopies, explique que les anciennes utopies ont un rôle, je dirais, d'informations sur ce que l'on recherchait, c'est-à-dire que lorsque on a telle utopie, ça renseigne surtout sur la société dans laquelle on vivait, et effectivement ça donne un tableau, si je puis dire, en creux des utopies anciennes, mais ce qui va être intéressant, c'est que lui, il va proposer des utopies comme des sortes d'anticipation, dit-il. La science a besoin d'anticipation, pour avancer, il faut faire des hypothèses. Alors, par exemple, il dit, la transmutation des métaux, l'alchimie, ça a permis à l'alchimie de commencer. Sinon, c'est trop compliqué. On ne va pas se lancer dans l'étude des éléments chimiques si on n'espère pas transformer le plomb en or. Et donc, la transformation du plomb en or, cette espèce d'utopie tout incroyable, c'est une utopie qui peut être utile. Ou alors, du point de vue politique, il dit l'utopie, l'admirable utopie, dit-il, de la paix perpétuelle, lancée par Henri IV, les Quakers et Leibniz, c'est une utopie qui fait avancer. C'est-à-dire que si on se dit que la paix perpétuelle peut exister, ben, on va se battre pour réaliser la paix perpétuelle. Les droits de l'homme en Union soviétique, c'était un moyen, c'était une utopie, mais qui a pu se réaliser ou faire avancer les choses. Alors, de ce point de vue-là, il va proposer effectivement un certain nombre d'utopies. Alors bon, il y a des rapports avec les utopistes fourriéristes ou autres qui mériteraient peut-être d'être développés, mais il va proposer des utopies qui sont toutes dans le domaine qu'on appellerait aujourd'hui biomédical. C'est pas des utopies physiques, c'est pas des utopies géométriques, politiques, etc. Ce sont des utopies biomédicales. La première, je n'y insisterai pas trop parce qu'elle est relativement classique, c'est l'utopie de la longévité. Il pense que la vie humaine pourrait durer beaucoup plus longtemps. Alors, c'était une idée de Condorcet aussi, qui pensait qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Il pense, par exemple, que le cerveau pourrait user deux corps, dit-il, et peut-être trois, ce qui serait mieux. Bon, le problème, c'est qu'à l'époque, la durée de vie moyenne du corps était brève, donc c'est pas énorme hein, comme résultat. Aujourd'hui, on y est déjà, d'une certaine manière. Et simplement, alors, c'est une idée qu'on trouve aussi chez des auteurs allemands, comme Ouflande, qu'on trouve chez Descartes. Hein, Descartes, la grande idée de Descartes, c'est pourquoi faire la philosophie? C'est pour vivre plus longtemps, donc c'est pour essayer de développer, de prolonger la vie. Lui, ce qui est assez curieux, c'est qu'effectivement, donne des règles, notamment des règles hygiéniques, freiner son gosier pour freiner les impulsions de la chair, donc plus de café, plus de vin, merci à celui qu'il appelle le grand Mahomet, hein, bon, parce que lui, au moins, il a réussi à couper la question de l'alcool. Hein. Et donc, il y a toute une série de régimes alimentaires, et puis il y a aussi une hygiène qu'il appelle cérébrale, c'est-à-dire que plus on vit au grand jour, comme il dit, plus on est ouvert, moins on dissimule, plus on vit longtemps. Alors, il y a un passage très étonnant où il dit, bon, les comédiens ne vivent pas très longtemps, parce qu'ils ne cessent de feindre, ils sont sans cesse hypocrites, et donc la mortalité des comédiens serait, bon, c'était une idée assez courante à l'époque, mais il explique ainsi, ce serait parce que effectivement, ils sont jamais eux-mêmes, ils sont toujours cachés, camouflés derrière des masques, etc. Donc il y a cette idée que l'on pourrait effectivement augmenter très largement la longévité. Ça, je dirais que c'est assez traditionnel. Il y a une deuxième utopie qui est en revanche beaucoup plus originale. C'est l'utopie qu'il appelle de la transformation des herbivores en carnassiers, et en particulier l'utopie des vaches carnivores. Il s'agit d'élever graduellement, dit-il, nos auxiliaires herbivores, en particulier les vaches, à la dignité de carnivores. Alors bon, c'est une idée bizarre. Alors évidemment, ça, quand j'ai lu ça à l'époque de la vache folle, je me suis dit, là, il y a un truc qui se passe. Bon, je ne me comparais pas à lui, mais Claude Lévi-Strauss a écrit un très bel article sur les vaches folles, où il fait référence lui aussi à Auguste Comte. Pourquoi cette utopie? Parce que si on rend les vaches carnivores, ça veut dire qu'elles vont chasser, et donc elles vont s'associer, elles vont devenir plus intelligentes. Si elles mangent de la viande, leur sang va être plus fluide, parce que c'est un meilleur sang lorsqu'on mange de la viande, etc. Et donc, d'une certaine manière, elles vont être plus intelligentes, plus éduquées, plus sociables, associables au sens où elles s'associent pour chasser. Et donc, ça serait quelque chose de tout à fait positif. C'est possible, dit-il, la preuve, il y a des vaches en Norvège qui mangent déjà du poisson séché, donc on pourrait bien envisager qu'elles mangent de la viande, etc. Et l'idée, c'est qu'effectivement, on fait progresser les vaches en direction de l'humanité, on va relever, comme il le dit, la dignité animale. De ce point de vue-là, on peut bouger. Alors, il y a toute une longue démonstration sur le fait qu'on peut changer le système d'alimentation. Mais évidemment, au-delà des vaches, il y a un but qui est tout à fait évident. C'est évidemment qu'il s'agit de transformer l'homme. Les modifications, dit-il, apportées aux races domestiques ne donnent qu'une faible idée des améliorations réservées à l'espèce la plus éminente quand elle sera systématiquement dirigée. Donc si on améliore les vaches, on va pouvoir améliorer les hommes. C'est exactement ce qu'aujourd'hui on appelle le post-humanisme. Le post-humanisme, c'est l'idée qu'on va pouvoir transformer l'humain. On peut le faire si, en particulier, on met toute la nature au service de la vie humaine. C'est ce que Comte appelle, dans un terme qui est assez moderne, la biocratie. La politique, c'est une politique du vivant, et en particulier du vivant humain. On peut essayer d'améliorer toutes ces espèces. On peut supprimer les espèces néfastes. ou qui servent à rien. Alors c'est là que Stuart Mill s'énerve, parce que effectivement, bon, on peut supprimer les lions, les serpents, etc., parce qu'ils risquent de nous manger, les poux, les cafards, etc. Mais aussi, à la rigueur, on pourrait peut-être supprimer les herbes que personne ne mange, par exemple. Donc c'est vrai qu'il y a un côté extrêmement dictatorial, et c'est l'exact contraire de l'idée de diversité. Hein. Mais ce qui est intéressant, je crois, c'est effectivement l'idée qu'au fond, alors, vous savez que c'est la religion de Comte, vous en avez parlé, je pense, au début, c'est une religion de l'humanité, et donc il s'agit de faire progresser l'humanité. C'est que l'homme n'est pas fixé. Et, alors c'est ça qui est très fascinant, je dirais, c'est qu'un des projets les plus prométhéens, c'est ça. C'est-à-dire transformer les herbivores en carnivores. Ça va vraiment contre l'ordre de la nature. C'est quelque chose d'extrêmement sacrilège. Et effectivement, ça a quand même pas très bien marché. En tout cas, la vache folle, même si l'épidémie est peut-être moins grave qu'on le craignait, c'est un point tout à fait intéressant. Et donc, il y a effectivement cette idée que on peut transformer les vaches, et si on transforme les vaches, pourquoi pas l'homme? Et ça va aller très loin. Et donc, il y a vraiment, les post-humanistes en général ne lisent pas Comte, mais ils ont sans doute tort. Ça, c'est la deuxième utopie, et c'est celle dont Comte est peut-être le plus fier, parce que c'est vraiment très original. Personne avant lui n'a eu cette idée à ma connaissance. Et troisième utopie, alors qui est aussi assez originale, c'est l'utopie qu'il appelle de la Vierge Mère, V majuscule, M majuscule. C'est, dit-il, l'utopie d'une fécondation spontanée qui permettrait à la femme de procréer sans l'intervention de l'homme. C'est au fond l'équivalent de l'Immaculée Conception pour la doctrine positiviste. C'est une invention très curieuse. C'est assez amusant de voir que Proudhon est un des rares à dire que c'est une idée assez intéressante, c'est une hypothèse physiologique intéressante, que la femme puisse se reproduire seule et sans le secours d'un mari, ce qui permettrait, dit Proudhon, à l'homme et à la femme de renoncer à la conjonction charnelle. Bon, ça. En revanche, Flaubert, dans Bouvard et Pécuchet, se moque de cette idée de Comte et en général des utopistes. Voilà de l'Auguste Comte, les prêtres éduqueront la jeunesse, engageront le pouvoir à régler la procréation. Et Bouvard répond à Pécuchet, crois-tu que le monde changera grâce aux théories d'un monsieur? Bon, critique radicale contre une invention comme ça dans la tête d'un monsieur. Alors, cette idée, là aussi, prétend s'appuyer sur des observations scientifiques, il cite en particulier le médecin Harvey, bon, du XVIIe siècle, selon qui la semence mâle n'a pas un rôle essentiel dans la fécondation. C'est une idée qui dure assez largement début 19e, dans certains dictionnaires de médecine, il y a encore l'idée qu'au fond, la semence mâle n'est pas un rôle central. La semence mâle fournit simplement un fluide excitateur au sang, d'après Comte, et on pourrait peut-être effectivement la remplacer, notamment, pourquoi pas, par un système d'excitation extérieure, par des stimulants, dit-il, même matériels. Il semblerait qu'il fasse allusion à un stimulant électrique, un petit coup d'électricité, ça pourrait effectivement produire ce qu'il appelle une grossesse nerveuse douée d'efficacité. Donc de ce point de vue-là, il y a l'idée qu'on pourrait fabriquer, la femme pourrait fabriquer seule sa progéniture, ce qui permettrait effectivement de rationaliser tout ça. La grande idée, c'est au fond ce qui choque Comte comme beaucoup à l'époque, c'est que le produit le plus important, l'homme, soit fabriqué dans un moment d'égarement, sans réflexion, juste comme ça, sur un coin de lit, non pas de table. Bon bref, d'une manière tout à fait irrationnelle. Or là, on va pouvoir effectivement séparer les choses, séparer la procréation et l'éducation. On va aussi ne pas gaspiller le fluide vivifiant, et ce qui permettra à l'homme de continuer à réfléchir, et notamment les prêtres positivistes pourront réfléchir tranquillement, plutôt que de gaspiller leur énergie dans la procréation. On pourrait ainsi, dit-il, purifier le mariage. Cette utopie permettrait, dit-il, donc de régler la plus importante des productions pour l'espèce humaine, qui ne s'est accomplie jusqu'à présent que dans le délire et sans responsabilité. Curieusement, d'ailleurs, on pourrait s'attendre à ce qu'il propose une sorte d'eugénisme. On ne laisse pas procréer les imparfaits, etc. Et il s'en prend à ce qu'il appelle l'eugénisme matérialiste des médecins et de certains économistes qui, pour éviter les procréations défectueuses, veulent interdire le mariage aux individus mal conformés. C'est un remède, dit Comte, non moins illusoire que tyrannique. Là aussi, j'insiste, c'est un des rarissimes auteurs à ne pas être eugéniste d'une certaine manière. À l'époque, même Condorcet et d'autres sont ok pour dire bon, il faudrait que la procréation soit réservée, de vérifier médicalement, etc. Comte lui propose une sorte d'eugénisme, je dirais plus soft, consistant dans l'alliance du mariage chaste et de l'adoption. Donc il y aurait des couples spécialement voués à la procréation, qui produisent enfants robustes, etc., et des couples plus doués pour l'éducation que pour la procréation, qui adopteraient ses enfants, et les prêtres qui, eux, resteraient une caste sans hérédité. Vous voyez, il y a l'idée qu'au fond, on peut séparer totalement la procréation de l'éducation. C'est très frappant de voir à quel point ce genre de question est actuelle. Par ailleurs, cette utopie de la Vierge Mère a un intérêt, je dirais, comme résumé au fond de la doctrine d'Auguste Comte, l'humanité se reproduit elle-même comme la femme se reproduit elle-même, sans avoir besoin de faire appel à un extérieur, quel qu'il soit. Je dirais que le dernier point, c'est effectivement l'importance de ce point de vue-là de la religion comme permettant d'assurer effectivement la santé. Le but, effectivement, c'est aussi une vie saine. Le but, c'est de développer ce que Comte appelle donc la biocratie, c'est-à-dire l'amélioration, l'utilisation maximale du potentiel de ce vivant très particulier qu'est l'humanité. Il faut savoir que ce qu'il appelle l'humanité, c'est pas ce que nous aurions tendance à appeler humanité, c'est-à-dire les hommes vivants. L'humanité avec un grand H, c'est l'ensemble des êtres, passés, présents et à venir, qui ont contribué au progrès de l'humanité. C'est-à-dire, alors, les êtres, ça veut dire qu'il peut y avoir des animaux dans l'humanité, hein, c'est-à-dire que les oies du Capitole, le cheval de Napoléon, ils peuvent faire partie de l'humanité s'ils ont servi à quelque chose, hein, ou Rintintin, ou le chien de laboratoire, je sais pas, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Donc la frontière homme-animal n'est pas si simple que ça chez Auguste Comte. Bizarrement, il y a pas mal de vétérinaires qui sont intéressés à l'œuvre d'Auguste Comte. Donc, être passé présent, être d'abord... Passé, bon, c'est nos ancêtres, hein, c'est les grands hommes, ce qu'il appelle l'antériorité, tous ceux qui nous ont précédés. Présent, bah, c'est toute l'humanité actuelle. Et à venir, c'est tout ce qui va arriver. Et d'une certaine manière, le bon positiviste doit essayer de communiquer avec ce qu'il appelle la postérité, c'est-à-dire ceux qui vont arriver après. Bon, il faut être doué pour ça, hein. C'est pas si simple que ça de s'imaginer tout ça. Et qui ont contribué au progrès de l'humanité, ça veut dire que c'est pas tout le monde. Alors c'est ça qui est le plus bizarre ou le plus choquant, c'est que effectivement, je crois que c'est 7 ans après la mort, la communauté positiviste se réunit pour décider, donc pas trop tôt ni pas trop tard, de ce qu'a fait le mort pendant sa vie. Et soit il a contribué au progrès de l'humanité et il est enterré dans le cimetière positiviste, près du temple positiviste, soit il a été juste, comme dit Comte, mais un peu vulgaire, un producteur de fumier, et à ce moment-là, bah celui-là, on le met à la poubelle, d'une certaine manière. Et alors, il y a certains disciples de Comte, je pense en particulier à Baumann, qui est un disciple assez d'Action française, assez hard, hein, qui, au fond, explique que, par exemple, les débiles profonds, les idiots, comme on les appelait à l'époque, bah, poubelle tout de suite. Tout de suite ou après, mais en tout cas, c'est pas l'humanité. Alors donc, c'est une vision assez curieuse, donc, de cet progrès de l'humanité. Vous voyez que, c'est pour ça que je pense que l'œuvre d'Auguste Comte est assez intéressante et peut fasciner des auteurs comme Houellebecq aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement une doctrine scientifique, et c'est un vrai scientifique, il connaît bien le cerveau, il connaît bien la biologie de son temps, c'est un des meilleurs tableaux de la biologie de son temps, la 40e leçon du cours, c'est encore lisible hein, aujourd'hui par beaucoup d'historiens de la biologie de la médecine, mais en même temps, à partir de la science, il élabore effectivement une religion qui nous semble assez bizarre, mais qui a pour fonction effectivement de resserrer le lien social et de permettre à l'humanité de se développer à l'infini. Voilà, donc c'est l'avenir de Comte et c'est peut-être notre présent. Voilà, je vous remercie de cette écoute.
J'avais une petite curiosité par rapport à ce séjour à Charenton.
Oui.
Est-ce que je me souviens plus s'il y avait des registres d'observation à Charenton ou pas?
Oui, sauf qu'ils ont été perdus.
Voilà,
mais,
bon.
Mais par contre, ils ont été consultés au début du XXe siècle par un médecin qui s'appelle Dumas. Donc on a ça, NG, on en guérit. Mais en revanche, on n'a pas retrouvé les documents. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit au fond qu'il a été très mal soigné à Charenton, parce que notamment, alors que c'était le haut lieu du traitement moral, on lui a donné des douches, des machins comme ça, et que celle qui l'a sauvé, c'est effectivement sa femme qui l'a ramené chez elle. Alors, c'était compliqué, parce qu'il a essayé de se jeter dans la Seine en rentrant bah, sur le pont, je sais plus, le pont Neuf, ou un truc comme ça, il a attaqué l'infirmier qui le gardait, etc. Mais elle a réussi pendant des mois à faire le traitement moral à domicile, si je puis dire, à essayer de le réintégrer dans une vie normale. Et donc, il estime qu'il est guéri par elle, même si ensuite leurs relations vont s'envenimer. À la maison d'Auguste Comte, il y a dans la bibliothèque des livres de Georget. Or, Georget, à l'époque, c'est un psychiatre qui était l'assistant d'Esquirol et qui, effectivement, est considéré aujourd'hui comme un personnage très important. Mais, semble-t-il, ça s'est mal passé, en tout cas. Les archives de Charenton, à mon avis, ont disparu quasi complètement. Alors il y a le livre de Blanche Murat là qui est tout à fait intéressant là sur cette maison privée de psychiatrie, mais
quand il reprend ses cours, Esquirol vient assister.
Oui, tu as tout à fait raison. Ouais. Pour vérifier dans quel état il est. Oui. Enfin, par exemple, Blainville, à qui il écrit, c'est un des très grands savants de l'époque et qui suivait ses cours, etc. Donc, c'était le secrétaire de Saint-Simon. Auguste Comte, à l'époque, était un personnage relativement important dans la vie intellectuelle parisienne. Donc.
Les deux aspects qui me fascinent, c'est d'une part sa manière de définir la biologie comme science autonome. Pour moi, c'est très moderne, ça, c'est vraiment au XXe siècle. Ce qui s'est passé du point de vue philosophique, enfin de la philosophie des sciences, c'est une science a un objet, elle est indépendante des autres, et avec la grosse difficulté qui date de Kant, la difficulté des mathématiques, c'est-à-dire les mathématiques qui interviennent un peu partout. Donc on a l'impression que la physique dépend des maths, alors que, justement, ce qui a été établi, c'est que la physique est complètement indépendante des mathématiques, même si elle utilise les mathématiques comme un outil, quoi. Et là, moi, je trouve ça absolument superbe, cette histoire d'autonomie de la biologie, c'est...
C'est vrai que sur la question des mathématiques, Auguste Comte est un auteur extrêmement passionnant, parce que c'est celui qui connaissait le mieux les mathématiques à l'époque et qui est, au fond, le plus hostile. En particulier, il est hostile à la mathématisation, de la biologie, de la sociologie, etc. Voire même, il est assez hostile aux mathématiques. Enfin, vous savez peut-être que dans la deuxième leçon du cours, lorsqu'il présente la classification des sciences, il commence par l'astrologie, il finit par la sociologie, et puis il fait semblant d'avoir oublié les mathématiques. Et à la fin, il dit, ah, au fait, vous allez me dire, il manque quelque chose, etc. Donc, il y a les mathématiques, mais pour lui, les mathématiques sont trop abstraites, d'une certaine manière. Et alors, il y a quelque chose d'extrêmement étrange aussi pour un philosophe, c'est qu'il parle souvent de matérialisme mathématique. C'est-à-dire alors en fait c'est ce qu'on appellerait nous réductionniste, c'est-à-dire que le plus réductionniste au fond c'est ce qui est au bout, et donc réduire aux mathématiques, ça c'est le matérialisme le plus dangereux. Il y a un bel article d'Agonier qui dit les mathématiques c'est de l'astronomie exsanguinée, c'est-à-dire la première vraie science c'est l'astronomie, et si on enlève les objets on a les mathématiques, si on enlève les planètes on a les équations, etc. Mais bon.
Alors ce qui est assez intéressant c'est que Pierre-Gilles de Gennes, prix Nobel de physique, sa grande lutte au niveau institutionnel ça a été contre la suprématie des mathématiques à l'école polytechnique. Il s'est battu et il a réussi des choses. En particulier, donc il était directeur de l'école de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, le SPCI, qui est une petite école. Évidemment, il avait le bras long, comme on dit, puisque un week-end, il s'est réuni avec quelques sommités, disons, de l'État, et il a changé des choses dans le concours de recrutement de Polytechnique. Et entre autres choses, l'écrit du concours d'entrée à Polytechnique a été commun avec, en particulier, le SPCI, et tout, qui était très physique, chimie et biologie. Et c'était simplement à l'oral qu'on choisissait Polytechnique ou le SPCI.
C'est étonnant. Moi, en même temps, l'école de physique-chimie, au fond, a produit nos prix Nobel les derniers, ils viennent de là, surtout. Ouais, donc c'est vrai que... voilà. Alors c'est très étrange puisque Comte est polytechnicien, a écrit un traité de géométrie analytique, etc. Mais il y a vraiment une forte défiance à l'égard de l'esprit mathématique et surtout l'algèbre. Alors géométrie ça va encore, mais l'algèbre ça va plus du tout. Ouais. Et en revanche, il y a ce qu'il appelle de l'autre côté l'esprit sociologique, et ça c'est l'esprit final. Donc c'est la vision synthétique de la société, etc. Il y a aussi une critique très violente des probabilités, ce qui est assez curieux parce qu'il y a des très grands, voilà, et c'est absurde.
Surtout en biologie. Maintenant, il y a un rationalisme qui est bizarre.
Un peu fou. C'est le 19e siècle. Il y a un auteur, un écrivain qui maintenant est assez connu, Philippe Meuret, que Lucchini a joué, qui a écrit un livre qui s'appelle Le 19e siècle à travers les âges, qui est un livre très intéressant où il parle de ce qu'il appelle l'oxos, hein, l'occultisme, socialisme, et l'alliance effectivement entre des philosophes du progrès, des philosophes de la rationalité, et aussi le spiritisme, l'occultisme, les religions laïques, etc. Il y a effectivement... Bon, j'étais récemment à un jury de thèse où il y avait quelqu'un qui travaillait sur William James et l'infrapsychique. Enfin, ton James, qui est un des très grands savants, psychologues, philosophes du 19e, 20e siècle, qui pendant des années a essayé de comprendre ce qui se passait avec les magnétiseurs, les voyants, les spirites, etc. Et, ou si on prend l'exemple de Fechner, le grand psychologue expérimentaliste allemand, il a écrit, on le sait, des bouquins sur l'âme des plantes, sur la vie après la mort, etc. Donc c'est pas un cas isolé. Il y a souvent cette bipolarité entre des rationalistes, savants, etc., qui ont une part qui, pour nous, semble assez délirante. Alors, il y a un livre de Le Pénis qui s'appelle « Les trois cultures » qui est tout très intéressant là-dessus. Il est difficile de créer des sciences humaines qui sont entre les sciences dures et la littérature. Et donc cette position entre les deux est compliquée à tenir, d'où peut-être effectivement ce genre de dérapage. Mais vous avez tout à fait raison, c'est quand même un rationaliste. Aussi, la religion, ça répond aussi à des nécessités sociales aussi. Parce que sinon, alors c'est ce qui fascine Houellebecq. Auguste Comte dit Houellebecq a bien compris qu'il n'y a pas de société qui puisse tenir sans religion. Il a essayé d'en faire une, ça n'a pas marché. Donc il n'y a plus de religion, donc il n'y a plus de société. Et donc on est des particules élémentaires.
Un cas assez particulier, c'est aussi Freud, hein. Enfin, qui se voyait lui-même comme un scientifique pur et dur,
oui.
Et en même temps était à la recherche de quelque chose d'invisible, comme un peu l'autre qui trouve les rayons X.
Oui, au début, c'est un pur savant classique qui s'intéresse effectivement au cerveau, à la neurologie. Ses premiers travaux, c'est des travaux de médecine dure, hein, si je puis dire, et qui en même temps cherche autre chose. Hein,
ça aurait pu mener au spiritisme, hein, sauf que justement, il savait encore faire la différence. Oui. Et d'ailleurs, les premières revues positivistes allemandes sont bourrées de publicité de la société psychanalytique de Freud. Freud était membre de la société de philosophie positiviste, etc. Alors évidemment, aujourd'hui, les psychanalystes n'ont pas
s'en souvenir. Ça,
enfin, bon, ça c'est d'autres raisons. Mais ma question est en fait une autre. C'est quand même frappant cette proximité entre positivisme et médecine et sciences en général, sauf que la médecine est évidemment une discipline assez particulière par rapport à la production théorique socialiste de la même époque. Des gens comme Marx, justement, il n'est pas médecin, et d'autres non plus. Alors je ne parle pas des autodidactes du genre Proudhon, mais c'est des philosophes, ils font des études de droit très souvent. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un lien entre cette perspective plus particulièrement positiviste, ou est-ce que c'est seulement pour le positivisme tardif? Parce qu'évidemment, bon, Saint-Simon, il n'était pas médecin non plus.
Non, parce que si on veut remonter au début du XIXe siècle, il y a vraiment l'idée chez beaucoup de philosophes et médecins ou médecins que, d'une certaine manière, la médecine devrait pouvoir remplacer à terme la philosophie. Par exemple, si on prend Cabanis au début du siècle, si on prend Broussais, si on prend des gens comme ça, même des études de Tracy, je sais pas, mais les idéologues, ils pensent qu'au fond, la médecine va prendre la place, d'une certaine manière, de la philosophie parce qu'elle sait traiter de l'homme et des passions humaines. Donc l'idée que, par exemple, on connaît beaucoup mieux l'âme humaine en étant auprès d'Esquirol ou de Pinel, elle connaît effectivement les conditions du fonctionnement de l'homme, etc. Chez Broussais, c'est très clairement dit, il faut que la médecine prenne la place de la philosophie. La philosophie n'est pas suffisante. Et je pense que des médecins à tendance philosophante, il y en a beaucoup. Bon, si on prend même à la fin du 19e, quelqu'un comme Broca, qui est un très grand savant, très grand médecin, c'est aussi un théoricien du racisme, dans ce cas-là, des colonies, etc. Donc, chez les socialistes moins, mais par exemple chez les saint-simoniens tardifs, par exemple les psychiatres dans la société médico-psychologique, des gens comme Cerise, Buchez, etc., il y a toute une série de médecins saint-simoniens, etc., qui débattent autour de la question de l'individu, de la société, ou Pierre Leroux, par exemple, c'est quelqu'un aussi qui lit les médecins de son temps, en particulier pour critiquer ce qu'il appelle le psychologisme, donc l'idée qu'on peut s'observer soi-même, etc. Donc ça peut tirer vers les sciences naturelles ou ça peut tirer vers la médecine, je dirais, individuelle. Mais par exemple, les théoriciens du racisme, comme Topinard, par exemple, c'est des gens qui expliquent que la connaissance de l'homme, elle est d'abord médicale. C'est à l'hôpital qu'on connaît, qu'on mesure, qu'on évalue l'homme, etc. Chez les socialistes, moins. Tu as tout à fait raison, c'est un point important. C'est-à-dire que...
Le fameux Alexis Carrel.
Bah oui, alors à la fin, au XXe siècle, il y a Alexis Carrel, il y a Charles Richer, là dont on vient de changer le nom d'hôpital. Vous avez vu que l'hôpital a été débaptisé. Mais alors c'est un personnage très étonnant, parce que c'est un plus grand Nobel de physiologie français, qui était spirit. Alors il a écrit un traité de métapsychique, et là, j'ai vu effectivement le bouquin qu'il a donné à la personne qui travaille là-bas, qui a regardé, effectivement ça s'appelle « L'homme idiot ». Bon, j'aime pas trop ces réécritures rétrospectives de l'histoire, mais c'est vrai que l'homme idiot, il est assez sévère. Vous tapez ça sur Internet, Charles Richer, l'homme idiot, c'est vrai que je comprends que la personne ait été choquée en lisant ça. Mais en même temps, Richer n'était pas le seul, loin de là, à dire cela à l'époque. Donc on risque de débaptiser pas mal de rues, pas mal d'hôpitaux, etc. Ça va dégager.
Parce... Les maréchaux, hein, quand même.
Une question, est-ce que Georges Canguilhem a écrit des choses sur...
Oui, beaucoup. Moi, c'est à travers Canguilhem, d'ailleurs, que je me suis intéressé à Comte, hein, parce qu'il a beaucoup écrit sur Comte. C'est l'auteur, d'ailleurs, sur lequel il a écrit le plus grand nombre d'articles, même plus que sur Bachelard, Claude Bernard, etc. Il y a deux aspects. Il critique l'aspect la médecine comme application de la biologie, parce que selon lui, la médecine, ce n'est pas une application de la biologie. Et donc, dans le normal et le pathologique, il critique le principe de Broussais, c'est-à-dire le principe de Broussais-Comte, qui est l'identité du normal et du pathologique. Sauf que je pense qu'il ne connaissait pas les textes ultimes de Comte, et donc il n'a pas vu qu'il y avait une vision plus subtile. Et par ailleurs, en revanche, il est très inspiré par Auguste Comte, puisqu'il dit que Comte était à l'origine, dit-il, du style de ce qu'on appellera, et ce qu'on devrait continuer d'appeler, le style français en histoire des sciences, c'est-à-dire une histoire des sciences qui est aussi philosophique et critique, etc. Et donc là, le lien, me semble-t-il, est tout à fait évident entre Canguilhem et l'histoire des sciences telle que l'écrit Auguste Comte. Et bon, on parlait tout à l'heure de la 40e leçon, il dit c'est un des meilleurs textes, et effectivement il s'en sert beaucoup, Canguilhem. Et Canguilhem connaissait très bien Comte, effectivement. Il écrit beaucoup de choses sur le plan des travaux, sur la question du réductionnisme, à propos de Littré, sur l'organicisme. Le problème du rapport entre la société et le vivant, c'est une vraie question pour Comte, et Canguilhem se pose aussi cette question, notamment dans un article qui s'appelle « Le problème des régulations dans l'organisme et la société », où il se dit est-ce qu'on peut expliquer une société sur le modèle du vivant sans tomber, en gros, dans les philosophies de la vie, du nazisme, en gros. Il écrit ça en 47, enfin, ou à peu près dans ces années d'après-guerre. Donc, si, Canguilhem connaît très bien Comte. Il a fait son mémoire, d'ailleurs, de maîtrise, sur Comte. Il n'est pas extraordinaire. Mais vous savez qu'il y a tous les archives, maintenant, de Canguilhem qui sont conservées dans un endroit remarquable, qui s'appelle le Café Sredul, mais très passionnant. Donc, il y a tous les livres, toutes les notes, tous les cours, etc. de Canguilhem, et on voit là, effectivement, entre autres choses, l'importance de Comte dans sa formation. Voilà. Bon, c'est, tout ça est un peu curieux. Enfin, mais là, moi, je trouve que c'est ce qui est fascinant chez Comte, c'est justement, c'est un scientifique pur et dur, et en même temps, c'est un rêveur sympathique. Ou antipathique.
Qui n'est pas toujours antipathique.
Voilà, c'est... Merci.